On revient un peu sur ce qu'on appelle les patients non-COVID ce matin. Pourquoi? Parce que The Gazette a obtenu des chiffres qui confirment un peu ce qu'on vous dit depuis fort longtemps. Si vous regardez sur une période de un an, donc depuis le début de la pandémie, on se rend compte que les gens au Québec, les gens qui sont en attente d'une chirurgie, ils étaient 3701 à la fin du mois de mars et à la fin du mois de janvier, on était rendu à 17 000. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, on se rend compte également que spécifiquement pour les cas de cancer, 441 patients attendaient une chirurgie depuis plus de deux mois, ce qui est un nombre évidemment spectaculaire. Et surtout, ça ne tient pas compte de tous ceux et celles qui n'ont pas eu de diagnostic parce qu'ils n'ont pas eu les examens requis. Alors, l'effet là, sur les patients non-COVID est cette fois-ci assez bien documenté. Puis en parallèle, vous avez Radio-Canada qui nous dit ce matin que les ententes conclues avec les cliniques privées ont permis quand même de, je dirais, soigner, traiter, opérer des patients plus rapidement. S'il n'y avait pas eu ces ententes, ben, je pense que le portrait serait encore plus catastrophique. Serge Legault est président de l'Association québécoise de chirurgie. Docteur Legault, bonjour.
Bonjour, M. Cercle.
La première question que je vous pose ce matin, quand on dit qu'on avait 3700 personnes qui attendaient une chirurgie depuis plus d'un an, là, puis qu'on est rendu à 17 000, là, quelqu'un qui attend depuis plus d'un an, c'est quel type de patient?
Ben, c'est les patients qui peuvent, selon la priorisation, attendre depuis longtemps. Un patient, ça ne peut pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais il y a des conditions cliniques qui déterminent l'attente. C'est sûr, puis vous conviendrez avec moi qu'un patient, exemple, qui a une cataracte, va être moins prioritaire au point de vue médical qu'un patient qui a un cancer. Avec la priorisation qui est en cours encore aujourd'hui, là, ça fait plus qu'un an que les comités de priorisation de chaque hôpital fonctionnent, mais malheureusement, c'est toujours la même clientèle qui doit payer du retard. Alors, l'explosion des cas de plus d'un an est vraiment significative. Là, on parle d'environ 2% habituellement de la liste d'attente au Québec. Là, on est rendu presque à 12% de la liste d'attente au complet.
Mais est-ce que ça veut dire, Dr Legault, ça, que si à 3700 cas, on a des cas de cataracte qui, entre guillemets, peuvent attendre, c'est pas agréable, mais qui peuvent attendre, quand on est rendu à 17 000, là, ça élargit, je dirais, le bassin de patients, et dans ce bassin-là, on trouve maintenant des gens pour qui c'est encore moins agréable d'attendre, là?
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, poser la question, c'est y répondre, M. Arcand. C'est sûr qu'on regarde cette statistique-là, puis on dit ça. Il va falloir qu'un jour, ça arrête. Les stratégies en place pour essayer de juguler le problème, elles sont là, mais tu sais, c'est aussi, c'est multifactoriel, cette affaire-là. Là. Fait que, tu sais, c'est toujours la même chose. Qui doit-on prioriser dans l'optique de essayer de diminuer le préjudice qu'une attente peut avoir? Puis là, faut que je sois clair, là. Moi, je parle à mes collègues ophtalmologistes, là. Opérer un patient avec une cataracte qui attend depuis longtemps, la cataracte mûrit, entre guillemets, et puis techniquement, c'est plus difficile. Donc, c'est pas le même genre de patient qu'on attend après plusieurs mois d'attente. Pareil en orthopédie. Les spécialités qui ont été vraiment très délestées à cause de la priorisation, ça fait que quand on les opère, non seulement ils attendent une attente qui est inacceptable, convenons-en, mais la chirurgie est plus difficile à cause de l'attente puis à cause de l'atteinte sur l'organe à opérer. Donc, c'est pas juste une statistique, c'est une question de difficulté technique pour les collègues qui opèrent.
OK. Radio-Canada a fait un reportage sur le rôle des cliniques privées, les ententes qui ont été conclues entre le ministère de la Santé et une série de cliniques. Selon ce que vous entendez du terrain, est-ce que ça fonctionne? Et là, je rappelle aux gens, ça veut dire que vous allez dans une clinique privée, mais c'est payé par l'État. Est-ce que ça permet, puis j'aime pas l'image, mais je vais la prendre quand même, là, de vider les listes un peu, là, donc d'opérer plus de gens?
Je vous dis, là, puis je vous le dis vraiment, je suis tout à fait convaincu de ça, là. Les cliniques médicales spécialisées, les fameuses CMS, il y en a 21 ou 22 qui ont des accords avec le gouvernement. Présentement, ça fait partie de la solution. Je vous donne l'exemple de Laval. Là, les chiffres de Laval seraient catastrophiques si les CMS n'étaient pas aussi utilisés que ça. C'est sûr que il y a un problème structurel dans les CMS, c'est que les CMS, souvent, on va opérer des patients qui sont pas hospitalisés. Donc, quand on parle de prioriser le bon patient, malheureusement, je peux pas opérer un cancer du poumon dans une CMS. Donc, les CMS permettent de diminuer la pression sur le système hospitalier pour qu'on puisse dégager des salles d'opération pour opérer des cas plus majeurs à l'hôpital. Mais à l'hôpital, il faut le staff. Les ressources humaines sont étiolées de façon impressionnante. Donc, il faut le staff à l'hôpital, en salle d'opération. Il faut le staff avant, puis il faut le staff après. Il faut que le patient aille sur un étage où il n'y a pas d'éclosion, où il y a des infirmières disponibles. Fait que, tu sais, c'est pareil comme si là, les équipes puis le patient étaient attaqués de toutes parts. Il faut que tout tombe en place. Les CMS aident beaucoup, 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 beaucoup.
Mais eux font des cas plus légers, là, comme vous dites, qui ne vont pas impliquer qu'on est hospitalisé pendant 2 ou 3 jours après la chirurgie. Là.
Exactement. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour parler de cancer? Parce que là aussi, les listes sont sous tension en cancer. Est-ce qu'on pourrait faire des cas de cancer dans les CMS? On est à travailler ça. Là. Il faut que la trajectoire soit sécuritaire pour les patients, mais est-ce qu'on pourrait faire, exemple, des cancers du sein, qui sont une grosse proportion des cancers qu'on opère, même pendant la pandémie, est-ce qu'on pourrait les transférer, cette clientèle-là, dans une CMS, les opérer de façon sécuritaire pour qu'il y ait exactement les mêmes soins, et puis dédier l'espace qui a été dégagé à des cas plus importants. Oui, on est à travailler ça, mais en même temps, il faut que le patient soit opéré de la bonne façon. Il ne faut pas qu'il y ait de différence dans les soins. On parle d'un cancer, là.
Absolument.
C'est sûr que, est-ce que les CMS sont une solution qui vont devenir pérennes? Là, l'histoire nous le dira, mais pour l'instant, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Parfait. Merci, Dr. Legault. Bonne journée.
Bye.
Au revoir. Serge Legault est le président de l'Association québécoise de chirurgie.